La parole maintenant est à Madame Aïssa Diarra, et qui va nous éclairer sur les systèmes décisionnels au moment de l'accouchement. Docteur Diarra Aïssa est médecin anthropologue, chercheur au LASDEL au Niger. Elle est actuellement impliquée dans des travaux de recherche sur les aspects anthropologiques de la prévention de la transmission mère-enfant en rapport avec le VIH et aussi la gratuité des soins. Docteur Aïssa.
Bonjour. Donc, le travail que je présente là sur les systèmes décisionnels autour de l'accouchement est une partie, en fait, de la thèse que je viens de soutenir en anthropologie de la santé sur la prise en charge des accouchements à problème à Bamako et en milieu semi-rural, c'est-à-dire à Koulikoro, au Mali. Donc, ce que recouvre cette thèse, c'était d'essayer de comprendre de bout en bout comment se construit les parcours d'accouchement à problème. Donc, j'ai essayé de suivre les parturientes depuis le déclenchement du travail dans l'environnement, ce que j'appellerais l'environnement social, jusque dans la prise en charge dans les structures de santé, en essayant de comprendre les pratiques soignantes. Alors, pour commencer, je vais juste présenter quelques chiffres sur la mortalité maternelle. Ce sera vraiment très, très bref parce que les présentations précédentes ont largement brossé ces aspects. Je vais juste préciser que au Mali, en 2001, la mortalité maternelle était estimée à 582 pour 100 000 naissances vivantes. Et qu'en 2005, il y a eu, c'est vrai, une baisse de cette mortalité maternelle qui est estimée à 464 pour 5 000 naissances vivantes. C'est vrai qu'il y a une baisse de cette du taux de mortalité maternelle, mais c'est très insignifiant quand on sait que l'objectif au départ était d'atteindre 146 pour 5 000 naissances vivantes. Et quand on sait aussi qu'en Europe, ce taux de mortalité maternelle est seulement de 9 pour 5 000 naissances vivantes. Alors, donc il y a problème. Et pour les anthropologues, aborder ces problèmes par rapport à la mortalité maternelle, c'est d'aborder premièrement les dysfonctionnements dans les services obstétricaux, en s'intéressant à la délivrance des soins, à l'organisation de la prise en charge, notamment par rapport aux soins obstétricaux d'urgence. L'anthropologue s'intéresse également au comportement du personnel de santé, les interactions entre les soignants et les soignés. Deuxièmement, l'anthropologue s'intéresse au domaine des usagères et de leurs familles, et en portant en accent ces interrogations sur les représentations et pratiques populaires autour de la grossesse et de l'accouchement, les perceptions sur les services de santé, également l'utilisation des services de santé. Alors, nous nous situons dans le domaine des usagères et de leurs familles, en essayant de comprendre les problèmes qui surviennent au moment de l'accouchement, particulièrement au sein de l'environnement social. Et nous axons nos investigations au cœur de la gestion du travail, en posant un certain nombre de questions, à savoir, lorsque le travail débute, qui participe, qui décide et que fait-on exactement? Alors, nous avons essayé de faire une lecture des parcours des parturientes avec une approche que nous appelons l'approche décisionnelle. Donc, nous avons utilisé l'approche décisionnelle comme outil d'analyse, avec cet argument que tout le monde est d'accord sur ça, qu'il y a une omniprésence des décisions dans les actions. Alors, nous nous référons aux travaux de Christian Morel, qui a travaillé sur ce qu'il appelle les décisions absurdes. Les travaux de Christian Morel nous intéressent non pas par rapport aux théories qu'il présente dans cet ouvrage, mais c'est surtout sur la manière dont il organise ses études de cas en organisant des séquences décisionnelles dans les prises de décision de ses études de cas. Bon, ces études de cas sont très variées. Cela va dans le domaine de l'appareil d'État, donc dans le plus haut niveau. et aussi dans les prises de décision assez banales, comme par exemple l'achat d'une montre ou alors la décision de faire des diapos presque illisibles pour l'assistance. Donc, ils considèrent que ce sont des décisions absurdes. Et pourquoi ? Parce que ce sont des décisions qui sont à l'encontre du but recherché. Donc, nous avons nous nous sommes référés sur la manière dont il a organisé ses études de cas, donc pour organiser les parcours des parturientes en séquence de décision. Cela nous a permis alors de repérer les principales étapes dans le parcours de ces parturientes, de suivre l'enchaînement des événements, de décrire les actions des acteurs en essayant de comprendre comment elles se forment, d'accord, comment elles s'expliquent et modèlent la gestion du travail. Nous nous intéressons à la fois aux discours et aux pratiques, et aussi l'écart entre les discours et les pratiques, parce qu'on sait que dans le passage à l'action, les discours ne sont pas toujours mobilisés. Alors, notre méthode est qualitative, bien sûr. Il s'agit d'enquêtes rétrospectives. Nous rencontrions les parturientes dans les services de santé, et nous essayons d'avoir de reconstituer leur parcours. Donc depuis le domicile avec le déclenchement du travail jusqu'à la prise en charge dans la structure de santé. Mais dans cette présentation, je ne vous parlerai que de la prise en charge dans l'environnement social. Donc nous avons eu des entretiens avec les parturientes, avec les nouvelles accouchées, avec leurs familles aussi, et aussi en population générale, pour essayer de saisir les représentations qu'ont les personnes que nous avons rencontrées, les décisions qu'elles ont eues à prendre et les raisons des choix de leurs décisions. Alors, nous avons également fait des observations au domicile des parturientes et également dans les structures de santé. Et nous avons fait des études de cas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par environnement social ? Donc, c'est notre lieu d'enquête. C'est-à-dire avant la prise en charge de la parturiente dans une structure de santé. Donc, nous avons effectué nos enquêtes à Bamako, avec comme hôpital national le CHU Gabriel Touré, et avec 6 centres de référence, 6 centres de santé de référence, et 45 centres de santé communautaire. Alors, également, nous avons mené nos enquêtes dans un milieu que nous dirons semi-rural, c'est-à-dire dans la commune du Cercle de Koulikoro, qui compte 2 CESCOM, un CESREF. Pour la suite de notre présentation, nous allons d'abord présenter quelques représentations et conceptions autour du travail. Nous n'allons pas faire une liste exhaustive de toutes ces représentations, mais seulement nous allons en choisir quelques-unes qui sont pertinentes pour le deuxième point, c'est-à-dire les séquences décisionnelles dans 2 parcours de parturientes. Donc, nous allons essayer de voir comment ces représentations sont mobilisées par les acteurs lorsqu'ils sont dans le feu de l'action. Donc, quelques représentations et conceptions autour du travail. Nous avons organisé ces représentations autour de 3 points, c'est-à-dire on a les représentations communes, on a les représentations des jeunes mères et on a les représentations de celles qu'on appellerait peut-être les spécialistes de l'assistanat des parturientes dans l'environnement social. Donc, pour ce qui concerne les représentations communes, le travail obstétrical est appelé en bambarati. Donc, ça correspond en fait à une douleur ressentie avant l'expulsion de l'enfant. Et donc, ici, il y a un signe qui est majeur, qui est présenté par tous les acteurs, c'est le signe de la douleur qui est physique, qui est reconnue comme une douleur physique, donc qui est une grande douleur, une douleur catégorisée comme une grande, c'est-à-dire en bambara dimiba, puisque à l'opposé, on a dimifitini, qui est la petite douleur. Cette douleur est aussi perçue comme symbolique, puisque ça renvoie à la guerre des femmes, donc une guerre au bout de laquelle on n'est pas sûr si la femme s'en sort ou pas. Donc il y a une fatalité autour de cette notion de guerre des femmes. Il y a aussi également une souffrance qui est très dure et qui crée comme ce qu'on dirait un lien fort entre la mère et l'enfant. Alors, pour ce qui concerne les représentations des jeunes mères, leurs représentations, les discours qu'elles présentent dans leurs représentations sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus nuancés. Elles parlent d'abord de ce qu'on appellerait une physiologie observable. Donc, elles vont, le travail est divisé en trois phases pour ces jeunes mères. Il s'agit de teen d'abord, qui est le travail proprement dit. Il s'agit, de l'accouchement, pardon. Il y a teen d'abord qui est le travail. Il y a Digini qui est la sortie de l'enfant et il y a Tonso qui correspond à la délivrance, qui signifie Tonso. Ensuite, elle parle ce qu'on pourrait dire une physiologie ressentie, c'est-à-dire une douleur qu'elle dise ressentir dans la chair et qui est indescriptible, qui est variable. Si, lorsqu'il s'agit d'une fille, la douleur est moins intense. Lorsqu'il s'agit d'un garçon, la douleur est beaucoup plus intense. Alors, cette douleur est qualifiée comme la douleur des femmes. Donc, c'est bien caractéristique des femmes. Un homme qui connaîtrait la douleur de l'enfantement mourrait sur le coup, selon elle. Alors, il y a également une temporalité émique qu'elles évoquent. Il y a deux types de travail. Donc, il y a le travail rapide qui soulage et socialement, les femmes qui ont un travail rapide sont considérées comme de bonnes femmes qui sont bien dans la société. Et donc, ce travail rapide, avec ce travail rapide, il y a toujours un accouchement imminent. L'accouchement est toujours imminent. Alors, il y a deuxième type de travail, c'est le travail long. Ce travail fatigue. Il a une charge sociale négative et ce travail, la durée de ce travail peut aller d'un jour et plus. Il y a certains qui vont jusqu'à une semaine, certains disent que ça peut aller jusqu'à une semaine. Alors, cette catégorisation du travail, cette typologie de travail renvoie à la prise en charge, au recours des soins dans le parcours des femmes, puisque un travail rapide renvoie à une prise en charge rapide, tandis qu'un travail long, on laisse la femme à la maison, à domicile, puisque l'accouchement n'est jamais imminent, il faut toujours attendre. Donc, il y a une catégorisation des femmes en fonction du type de travail, celles qui ont un travail rapide, donc recours rapide, et celles qui ont un travail long, recours tardif pour celles-ci. Ensuite, on a les représentations des femmes qui assistent les parturientes. On les appelle généralement en Bambara des attrapeuses de travail, timnela. Généralement, c'est des femmes âgées qui ont une longue expérience dans l'assistance aux parturientes à domicile. Elles assurent la gestion du travail donc à domicile et c'est elles qui prennent les décisions de recours aux soins. Dans leur représentation, elles se réfèrent sur certains signes qu'elles constatent, notamment les signes annonciateurs du travail. Donc c'est en premier la douleur, c'est aussi le liquide sale qui s'écoule, des allées lorsqu'elles constatent des allées fréquentes des parturientes aux toilettes. Et lorsqu'il y a l'eau qui s'écoule aussi. Elle se réfère également à des signes d'alerte, c'est-à-dire le sang qui s'écoule, les pieds enflés et l'urine qui ne sort pas. Et donc, parfois, ces signes d'alerte correspondent à des signes inhabituels, disent-elles. C'est des signes qu'elles n'ont jamais rencontrés, qu'elles n'ont jamais vus dans leur expérience et qui sont des signes d'alerte, c'est-à-dire qui appellent à un recours aux soins. Par rapport à la douleur, que disent ces femmes? Dans leur position, elles disent que cette douleur doit être maîtrisée. La parturiente, à ce moment, doit montrer sa bravoure, son endurance, et cela va de sa dignité et celle de sa famille. Et la gestion de cette douleur doit se faire à domicile, à l'abri des regards étrangers, d'où cette retention des parturientes à domicile le plus longtemps possible avant l'accouchement proprement dit. Donc, elles aussi font cette catégorisation des parturientes en travail rapide et travail long. Nous allons passer maintenant aux séquences décisionnelles dans deux parcours de parturientes. Donc, je vais présenter là deux études de cas. Alors, La première étude de cas que j'ai nommée la gestion du travail entre un inconnu et le conjoint, il s'agit de Madame Conné qui a 33 ans, qui est ménagère, donc femme au foyer. Son conjoint a 47 ans, il est tailleur. Le couple réside à Bamako dans un quartier périphérique pauvre. Alors pour résumer, alors qu'elle se trouvait au marché rose, Madame Conné est surprise par le déclenchement de son travail. Elle est conduite dans une grande maternité de Bamako, puis ramenée à son domicile pour ensuite réintroduire le système de santé. Et à la fin de son périple, elle perd son enfant. Pour donner un peu de précision sur ce cas-là, j'ai rencontré Madame Conné en fait dans une structure de santé, dans un centre de référence à Bamako, à la commune 5. Et donc, elle était hospitalisée après une laparotomie. Et Madame Conné me dit que donc le travail a commencé au marché rose et c'est un commerçant que je qualifie d'un inconnu dans son parcours qui il a amené à l'hôpital Gabriel Touré. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital Gabriel Touré, la sage-femme qui l'a accueillie lui a demandé si elle est à part ce commerçant si elle est avec un membre de sa famille. Donc elle a répondu non, elle n'avait pas d'argent non plus sur elle. Et donc la sage-femme lui a dit, bon, écoutez, madame, vous retournez à domicile et vous revenez avec de l'argent et avec un membre de votre famille. Alors nous allons essayer de voir comment on peut schématiser ce parcours de Madame Conné. Alors, donc, il y a cette intention, parce que Madame Conné avait l'intention, lorsque le travail s'est déclenché au marché rose, elle avait l'intention de retourner à la maison. Mais il y a l'inconnu, le commerçant, qui a pris la première décision de son parcours en l'amenant à l'hôpital. Alors, deuxième décision, cette décision vient du soignant. Il s'agit de rentrer à la maison, puisque là, je marque, pas d'argent et absence de la famille. Troisième décision, Madame Conné est rentrée donc chez elle. Donc, avant de continuer, je dirais que l'intention de la parturiente de retourner à la maison rejoint la décision 2. Et donc, il y a eu, comme vous le voyez, une perte de temps à aller à la structure de santé plutôt que de rentrer d'abord chez elle. Donc, pour continuer la décision 3, c'est celle du mari qui a cherché d'abord le moyen de transport, qui a cherché l'argent, qui courait, comme elle disait, Madame Conné, après l'argent, avant de l'amener au CESCOM, d'où, là encore, on remarque qu'il y a eu une perte de temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut relever comme différents points dans le parcours de Madame Conné? Donc, il y a d'abord ce signe annonciateur du travail qui est la rupture de la poche des os. Ensuite, il y a le refus de prise en charge obstétricale par la structure de santé, d'où le retour dans l'environnement social sans avoir reçu des soins. Ensuite, il y a eu la recherche de transport et de moyens financiers, d'où le maintien dans l'environnement social pendant un bon bout de temps. Ensuite, il y a eu cette mise à l'écart de la parturiente de toute prise de décision. Donc, on le voit bien, décision 1, décision 2, décision 3, on ne voit nulle part la parturiente. Donc, c'est l'inconnu, les soignants et le mari. Alors, ce qu'on peut également ajouter, c'est que la structure décisionnelle à laquelle appartient Madame Conné se caractérise de cette manière. Le pouvoir décisionnel est entre les mains de son mari, donc qui est le chef de famille. C'est lui qui contrôle les ressources financières du ménage. C'est lui qui assure la gestion du recours aux soins. Donc, il y a également ce qu'on pourrait ajouter, la part de l'imprévu. Donc, Madame Conné a déclenché son travail au marché. Donc, Madame Conné n'a certainement pas planifié d'avoir un travail qui se déclenche au marché. Et aussi, il y a l'intervention d'un inconnu qui prend part aux prises de décision. Alors, deuxième étude de cas, donc c'est une parturiente au centre du processus décisionnel, donc à l'opposé du cas de Madame Conné. Il s'agit de Madame Touré, qui a 37 ans, restauratrice. Son commerce marche bien. Et son conjoint est un petit commerçant détaillant. Il gagne peu d'argent. Le couple réside à Bamako, au centre-ville. Alors, Madame Touré nous confie que lorsque son travail a commencé, elle a attendu que ses contactions soient plus rapprochées pour appeler une femme âgée, voisine de concession, qui l'a accompagnée à l'hôpital. Son mari averti a cherché un taxi qui amena les deux femmes à l'hôpital. Une fois arrivée, Madame Touré négocie avec la sage-femme qui est réticente à la faire accoucher dans cette structure de troisième référence. Je rappelle qu'il s'agit de Gabrielle Touré, devant se rendre normalement dans un CESCOM de sa commune. Alors, Madame Touré réussit à rester dans cette structure et donna naissance à un nouveau-né de sexe masculin. Donc, pour Madame Touré, tout s'est très bien passé. Alors, nous avons organisé les séquences décisionnelles dans le parcours de Madame Touré de cette manière. Donc, la décision 1, c'est Madame Touré qui a pris cette décision. Donc, elle a géré seule son travail. Ensuite, c'est elle qui a pris la deuxième décision, c'est-à-dire le moment de partir à l'hôpital. La voisine était juste là pour l'accompagner au vrai sens du terme, sans intervention dans son parcours. Et ensuite, on a eu le mari. Ce n'est pas une décision qu'il a vraiment... Il n'a pas intervenu dans les prises de décision. Il a juste servi à aller chercher le moyen de transport. Ensuite, décision 3, Madame Touré, c'est elle qui négocie, qui décide de rester dans cet hôpital de référence, de troisième référence, et qui négocie sa prise en charge dans cet hôpital. Alors donc, pour revenir sur les caractéristiques de ce parcours de Madame Touré, donc le signe annonciateur du travail, c'est bien la douleur. Et ensuite, il y a la gestion du travail à domicile par la parturiente. Donc, avec l'accélération des contractions, elle décide du moment du recours aux soins. C'est elle qui, c'est son mari qui a assuré la recherche du transport. Donc, il a joué un rôle simplement physique. Ensuite, là, on voit bien que la parturiente est au centre des décisions. On la voit partout, D1, D2, D3, c'est toujours la parturiente tout au long de son parcours qui a pris les décisions. Alors, la structure décisionnaire à laquelle appartient Madame Touré, c'est que les acteurs habituels de la prise en charge des décisions, de la prise de décision, sont quasiment écartés de son parcours. De manière générale, on a une femme qui assiste les parturientes, qui gère, qui fait la gestion, on l'a vu, qui fait la gestion du travail à domicile, qui prend toutes les décisions à son actif. Donc, on n'a pas l'accompagnante, sa voisine ne joue pas ce rôle-là. Donc, elle est écartée des prises de décision. On a également un mari chef de famille qui, généralement, prend à son actif toutes les décisions. Donc là, dans ce cas-là, il est presque inexistant. Et également, qu'est-ce qu'on voit, c'est que bon, voilà, c'est Madame Touré qui s'impose dans une structure de santé. Alors, la parturiente détient un fort pouvoir décisionnel au sein de la famille. Elle est certes assistée, mais elle reste maîtresse de son parcours. Elle décide du moment de se rendre à la structure de santé qu'elle a elle-même choisie. Donc, il y a également une autonomie financière, et on pourrait parler ici de femme chef de famille. Donc, nous avons essayé de voir, parce que là, ce n'est que deux exemples, deux études de cas que je vous montre là. Dans ma thèse, il y a d'autres études de cas. Et donc, là, je présente les intervenants potentiels dans la gestion du travail dans l'environnement social. Donc, il y a le beau-père, la belle-mère, les belles-sœurs. Il y a également, comme on l'a vu dans le cas de Madame Koné, des inconnus qui peuvent intervenir. Donc, les conjoints, les pères, enfin, toute la famille. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir et en fait, qu'est-ce que j'ai voulu montrer à travers cette présentation? Par rapport aux représentations et conceptions, nous devons retenir deux choses par rapport à la durée du travail. Le travail long correspond à une retention en fait plus ou moins longue de la parturiente à domicile, avec pour conséquence parfois des retards de prise en charge dans les structures de santé. Et le travail rapide correspond à un recours rapide, mais parfois trop rapide, il faut le dire, pour les soignants, qui renvoient les familles à leur domicile en leur demandant de revenir plus tard. Ces cas-là, je les ai observés au Niger, où lorsque les parturientes, on l'a vu d'ailleurs dans le cas de Madame Koné, les parturientes qui arrivent dans les structures de santé, on veut peut-être pas les voir traîner par là, on leur dit, bon, c'est pas le moment, il faut retourner à la maison. Et finalement, c'est des parturientes parfois qui accouchent à domicile, alors que d'un autre côté, dans le système de santé, les autorités parlent d'accouchement médicalement assisté. Et donc, on voit que là, les soignants participent à la pratique de l'accouchement à domicile. Alors, deuxième point, c'est que les acteurs ne sont pas, ce que je voulais souligner, c'est que les acteurs ne sont pas entièrement pris par des systèmes de représentation, car dans le passage à l'action, ils peuvent être confrontés à des ruptures de cadre, terme emprunté à Goffman, dans lesquels ils vont devoir faire des choix, agir et interagir avec les autres. Alors, par rapport aux structures décisionnelles, le parcours de la parturiente dépend de la structure décisionnelle dans laquelle elle évolue. Donc, chaque acteur intervient en fonction du rôle qui lui est assigné. On a vu ça dans les deux études de cas. Et donc, il peut y avoir une désarticulation de cette structure décisionnelle face à l'imprévu. Encore une fois, il y a une grande part d'imprévu parfois dans les parcours des parturientes, d'où des stratégies de réajustement qui consistent à faire avec les moyens et les acteurs présents. On a vu cela avec le cas de Madame Koné. Alors, la variété des situations de gestion du travail invite à ne pas faire de généralisation. La posture serait plutôt de retenir que les stratégies et les processus de prise de décision sont déterminés par une diversité de paramètres. Donc, il y a les variations des types de structures décisionnelles, on l'a dit. Il y a la localité, qu'il soit rurale ou urbain. Il y a la position économique et professionnelle des acteurs. Il y a leur rapport à la tradition, à l'innovation et aussi à l'autorité. Je terminerai pour dire qu'une lecture des parcours d'accouchement à problème avec l'approche décisionnelle permet de mieux appréhender la complexité des logiques qui déterminent les choix des acteurs. Merci.